Processus électoral en RDC, la proposition de la loi électorale présentée jeudi dernier à l'Assemblée nationale n'a pas pu être examinée comme souhaité au programme. Les députés de l'opposition, membres du FCC, ont quitté cette plénière, refusant de siéger pour l'examen de cette proposition de loi. Le président de cette chambre du Parlement ayant de son côté interrompu cette plénière de jeudi, la reprogrammant pour ce 20 avril, souhaite vivement avoir les députés de l'opposition présents pour l'examen de cette proposition de la loi électorale. Dans cette mésentente, les députés de l'opposition soupçonnent la majorité présidentielle de préparer une fraude électorale en programmant l'examen d'une proposition de loi électorale sans un consensus préalable. De son côté, la majorité présidentielle accuse le FCC de vouloir provoquer le dysfonctionnement du Parlement. Quelle lecture faire de cette nouvelle polémique sur la loi électorale en RDC? Nous en parlons ce soir avec Alain Omanja, analyste des questions électorales. Alain Omanja, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Dieudonné Mérimo, expert électoral, il est secrétaire général de l'école de formation électorale en Afrique centrale. Il est également ancien rapporteur de la commission électorale indépendante, CEU en sigle. Dieudonné Mérimo, bonsoir.
Bonsoir, madame Kelly Kouté.
Et Emery Madi Fouta, expert électoral, membre de l'Ordre national des experts électoraux en RDC. Emery Madi Fouta, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes très nombreux à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Gabriel Ekwalanga de Bukavu Sud Kivu. Je trouve que cette guéguerre entre ces deux plateformes politiques est une façon pure et simple de retarder les élections de 2023. Junior Bompongo à Kinshasa, les élections transparentes exigent un consensus autour de la loi électorale. Sans cela, c'est la boule rouge apocalyptique. À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal Plus, channel 572. Bonsoir et bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Climat de tension et de méfiance au sein de l'Assemblée nationale. Une pétition contre le président Christophe Mboso aurait déjà recueilli plus de 130 signatures. Les députés de l'Union sacrée accusent le FCC et dénoncent une manœuvre de ces derniers de déstabiliser le bon fonctionnement du Parlement afin de l'empêcher de voter la loi électorale nécessaire pour la tenue des élections en 2023. En réaction, le Front commun pour le Congo soutient avoir suspendu sa participation à toute plénière portant examen de la proposition de loi électorale, car selon lui, le décor d'une fraude électorale à grande échelle est déjà planté. Michel Kifinda nous en dit plus.
Alors que le président de l'Assemblée nationale a reporté la plénière de jeudi dernier à ce mercredi afin de rechercher un plus grand consensus sur la loi électorale, les députés de l'Union sacrée accusent ceux du FCC de vouloir bloquer le processus électoral de 2023.
Il est hors de question que la loi électorale soit discutée en dehors du Parlement. Nous prenons le peuple à témoin sur l'attitude antidémocratique du FCC qui, à proprement parler, tend à pérenniser la culture du glissement et des dialogues de partage du pouvoir.
En réaction, les députés du FCC dénoncent plutôt une loi taillée sur mesure pour une fraude électorale à grande échelle. André Tamboué.
Nous disons non à une loi taillée sur mesure. Notre rejet de ce débat dans le cadre du débat parlementaire est lié au fait qu'il n'y a plus de débat à l'Assemblée nationale. Tout ce qui a été dicté à l'extérieur nous est imposé et ça passe. Et par conséquent, le consensus doit se dégager déjà dans la composition de la Cour constitutionnelle. Il faut que régularisation, la composition des animateurs de la CENI.
Notez qu'une pétition contre Christophe Mboso, initiée par le député Papi Nyango du FCC, aurait déjà recueilli plus de 125 signatures. Les députés de l'Union sacrée dénoncent cette pétition qui, selon eux, est une stratégie du FCC. C'est pour bloquer l'examen de la loi électorale.
Merci Michel Kifinza. Alain Omanja, je rappelle que vous êtes analyste des questions électorales. Comment vous analysez cette nouvelle polémique sur l'examen de la loi électorale à l'Assemblée nationale?
Permettez-moi d'abord, madame, de saluer M. Dieudonné Mérimo et le second co-débatteur et aussi les auditeurs. Et je voudrais aussi commencer par souligner je pourrais appeler le respect des textes légaux par le bureau de l'Assemblée nationale en ce qui concerne le choix de la proposition de loi électorale à traiter. Parce que comme vous savez, il y a eu après la proposition du G13 plusieurs propositions de loi qui ont été introduites au bureau de l'Assemblée nationale et sur ce point précis, le bureau a respecté les dispositions du règlement intérieur et ils ont pris la proposition qui a été déposée en premier lieu. Je dois aussi reconnaître que c'est une proposition de loi qui a fait l'objet d'un large débat des forces vives lors de la phase de sa rédaction et qui contient dans sa forme actuelle et sous réserve des débats au Parlement des grandes avancées, des grands correctifs qui pourraient, s'ils sont adoptés, théoriquement, mais je souligne théoriquement, améliorer considérablement notre processus électoral. Mais ce qui se passe entre les acteurs politiques, d'après moi, ne doit pas d'abord être considéré comme un débat sur la loi électorale. C'est d'abord des désaccords qui sont apparus à l'occasion des discussions, des débats autour de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Ensuite, il y a eu les grands débats autour de la désignation des animateurs de la nouvelle CENI. Et d'une manière générale, il y a ce grand malaise qu'on voit à l'Assemblée nationale par le fait que la qualité des débats laisse à désirer et on dirait que les parlementaires n'exercent plus totalement de leur liberté d'expression et que la conduite des débats est assez assez regrettable si vous me passez l'expression. C'est sur ces questions d'ordre général que les désaccords actuels se basent et non encore ou non vraiment sur la loi électorale comme telle.
La loi électorale avait été programmée pour le jeudi passé. L'examen de la loi était programmé pour jeudi passé. Malheureusement, le FCC a boycotté cette plénière, estimant qu'il faut d'abord un consensus sur cette loi avant d'envisager un quelconque examen en plénière à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est fondé, cette raison avancée par le FCC?
J'ai l'impression que on ne peut pas réclamer un consensus avant les débats proprement dits. Si on veut obtenir un consensus, il se fait dans le cadre des débats. Mais je crois qu'il y a un malaise général qui explique cela. Vous vous rappelez par exemple que lors de la désignation des nouveaux animateurs de la CENI, le bureau de l'Assemblée nationale avait désigné des personnes sans l'accord du FCC, ce qui fait que pour cette composante, la procédure de débat parlementaire peut être déjà viciée à l'avance. Vous vous rappelez aussi qu'il y a eu des désaccords, même si sur ce point-là, le FCC était d'accord avec la majorité, mais il y a eu quand même des désaccords sur la loi organique sur la CENI. J'ai plutôt l'impression que ce sont ces questions-là qui posent problème. Il y a aussi la désignation du secrétaire exécutif national et tant d'autres questions parallèles qui bloquent les discussions, mais ce n'est pas encore à proprement parler la loi électorale qui pose problème, parce que je ne vois pas encore d'emblée des dispositions qui pourraient, par exemple, amener l'opposition à se retirer des débats s'il était seulement question de la loi électorale.
Puisque nous parlons de la loi électorale, quelle est la nécessité, Alain Lomanja, de la changer à chaque cycle électoral? Est-ce que c'est important?
Le problème, c'est que moi, je vois le problème à plusieurs niveaux. À un premier niveau, je pourrais dire que nous ne sommes pas encore arrivés à un niveau de maturité démocratique qui fasse que les lois qui sont adoptées pour le processus électoral soient totalement impersonnelles et orienté vers la transparence et le bien commun, le bien supérieur de la nation. C'est souvent des lois qui sont rattachées aux intérêts des camps politiques, et quand il y a changement des camps politiques, chaque composante qui arrive au pouvoir essaie d'en profiter ou de radicaliser des mesures de manière à s'assurer la victoire électorale. On le voit avec la CENI, on le voit aussi généralement dans la loi électorale. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que nous sommes une démocratie qui avance un peu comme par essai et erreur. À chaque processus électoral, il y a des dysfonctionnements, des irrégularités qui font que on ressente la nécessité de clarifier telle ou telle disposition légale. Mais je crois aussi que, comme le disait ce Abbé Malumalu, le plus souvent quand les politiciens ont failli à leurs responsabilités, on accuse la loi et on pense que c'est le changement de la loi qui va changer la réalité du processus électoral. Mais ce n'est pas toujours évident.
Dieudonné Mirimo, vous êtes expert électoral et secrétaire général de l'École de formation électorale en Afrique centrale, également ancien rapporteur de la Commission électorale indépendante, CEI en sigle. Votre lecture sur cette mésentente entre la majorité et l'opposition sur l'examen de la proposition de la loi électorale.
De prime abord, madame, je voudrais saluer mes co-débatteurs, Alain Lomanja et M. Madifuta, ainsi que les milliers d'auditeurs de Radio Okapi. Lomanja l'a si bien dit, le problème qui se pose, c'est que il y a une difficulté entre les parties prenantes dans la mise en œuvre du cadre légal. Et le problème que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est le moment choisi pour opérer les réformes. Le cycle électoral comporte trois phases: préélectoral, électoral et post-électoral, et c'est pendant la période post-électorale qu'il est prévu de faire des réformes. À ce moment-là, personne ne suspecte l'autre. C'est une période que je qualifierais de période neutre, où on peut opérer des réformes sans suspicion. Mais quand on envisage les réformes à une année, à deux ans des élections, là ça réveille tous les esprits, et malheureusement ça ne peut pas aider à avancer.
Est-ce que c'est fait sciemment, Dieudonné Mirimo? On l'a remarqué, à presque tous les cycles électoraux, c'est à une année, quelques mois des élections qu'on se met à modifier la loi électorale. Est-ce que c'est fait sciemment par les politiques?
C'est fait sciemment, madame. Ça fait la cinquième fois qu'on va modifier la loi électorale. Elle a été promulguée en 2006, on l'a modifié en 2011, puis en 2015 et en 2017, et voici qu'en 2022, on veut encore la modifier. À mon humble avis, le problème, ce n'est même pas la loi. Le vrai problème, c'est la mise en application des textes. Tant qu'on n'appliquera pas les textes, même si on amenait les anges du ciel, ça sera difficile pour avoir une élection apaisée et transparente. Donc, il faudrait que cela soit noté une fois pour toutes. J'ai vu que dans les propositions qui ont été faites, il y a 18 nouvelles propositions. En les lisant, je constate par exemple qu'on revient sur la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Or, cette disposition existe à l'article 68 de la loi électorale de 2006, de 2011, de 2015 et de 2017. Je ne sais pas ce qu'on va encore modifier. On parle de la remise des PV aux témoins. Cette disposition existe aussi dans la loi électorale. C'est vrai, on donne les PV aux témoins présents, aux témoins qui signent, mais aujourd'hui, si on demande à remettre les PV à tous les témoins, madame, 620 partis politiques, 72 regroupements politiques, je ne sais pas, il y aura combien de candidats à l'élection présidentielle. Comment la CENI peut remettre les PV à tous ces témoins-là? C'est techniquement impossible. Donc, il y a des choses qu'on demande qui sont irréalisables, mais il y a d'autres qu'on apporte qui existent déjà dans la loi.
Comme vous l'avez dit, peut-être insister sur la mise en application de ces nouveaux articles ou de ces innovations dans la loi électorale.
La disposition de la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, ça existe. Pourquoi ça n'a pas été fait pour qu'on y revienne aujourd'hui? Qu'on demande simplement l'application des textes, point. La remise des PV, c'est aussi dans la loi électorale, pour ne citer que ces deux exemples-là. C'est seulement la mise en œuvre de la loi qui pose problème.
Emery Madi Foutaï, expert électoral, membre de l'Ordre national des experts électoraux en RDC, votre analyse sur cette situation, cette polémique sur l'examen de la proposition de la loi électorale entre la majorité et l'opposition, l'opposition qui demande un consensus avant l'examen de cette loi, de cette proposition de loi. La majorité estime que l'opposition cherche à provoquer le dysfonctionnement du Parlement. Comment vous analysez cette situation?
C'est un peu malheureux de le dire encore, de vouloir redire ce que nous avons suivi et vécu lors des scrutins passés ou pendant les régimes passés. Nous sommes allés de dialogue en dialogue, de réforme en réforme, jusqu'à ce qu'en 2010, on a organisé les élections. Mais maintenant, à quelques mois ou à une année et demie des élections générales, on voit que les députés viennent encore revenir sur le même histoire que nous avons vécue pendant les cycles passés. Nous nous posons la question par rapport à ce débat, de vouloir encore aller au dialogue, est-ce que l'opposition comprend-il que la population aujourd'hui a des problèmes sérieux auxquels cette population voudrait trouver des solutions, des réponses? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, sur le plan même des élections, il y a instabilité au niveau des provinces. Le gouverneur, dans la plupart des provinces, n'a pas bien travaillé. Et bientôt, la CENI va organiser ses élections. Troisièmement, les organisations de la société civile et d'autres composantes ont soulevé des problèmes par rapport à la loi électorale. Il y a des problèmes liés à la prise en compte de la personne vivant avec handicap. Il y a des problèmes liés à l'élection des gouverneurs, au suffrage direct. Il y a des problèmes liés même au seuil. Il y a des problèmes liés à la représentation des jeunes. Autant de problèmes. Maintenant, au niveau de la loi électorale, il faut que le débat soit ouvert. La proposition qui a été présentée, est-ce qu'elle a pris en compte tous ces problèmes, ces vrais problèmes que j'appelle les vrais problèmes, soulevés par la population ou non? Et ce n'est pas en dehors de l'hémicycle que tous ces problèmes vont trouver solution. Mais maintenant, si on doit encore aller au dialogue, pour quel moment, pour quelle année, pour quel jour ces élections auront lieu? Aussi, il y a un problème de la nature qui remonte même de la nature de l'organe de gestion électorale. Aussi longtemps que ce problème de la nature hybride de cet organe, nous sommes appelés à accepter d'aller aux élections et attendre après ce mandat, peut-être qu'on pourra envisager avoir un organe de gestion électorale qui pourra ne pas mettre tout le monde ensemble. Mais dans l'état présent, la loi sur la CENI était contestée, elle est là. Maintenant, la loi électorale contestée, alors, vous voyez jusque-là que nous allons aller de contestation en contestation, au lieu que la proposition qui a été et n'est pas présentée, débattue, parce que c'est là où il faut soulever les problèmes. Le problème n'est pas des bâtis. Le vrai problème ne sont pas des bâtis. Ou le grand problème n'est pas des bâtis. Maintenant, l'opposition veut se retirer, sortir. C'est dans quel but?
Selon le FCC, les grandes lignes de cette loi, la proposition de la loi électorale, doivent être débattues préalablement entre les différentes parties prenantes et ça doit se faire en dehors du Parlement qui est devenu, selon le FCC, une caisse de résonance pour le pouvoir en place.
Mais madame, est-ce que dans un régime démocratique, les problèmes sont débattus conformément à la loi ou en dehors de la loi? Je ne pense pas. Dans quel texte il est dit que la loi électorale ou les propositions de réforme doivent être débattues en dehors des textes? Même dans, au niveau des régimes passés, nous avons vécu cela. Mais qu'est-ce que cela a donné comme résultat? On ne peut pas aller débattre un problème qui concerne la loi, en dehors même de la loi, peut-être. Vous en disiez. Parce que là, nous pouvons dire qu'il y a d'autres présuppositions idéologiques qui se cachent. Et ils iront là-bas pour débattre ces réformes. D'autres préalables sont encore utilisées. Sur table, vous allez écouter là-bas, ça sera encore la remise en question de la composition de la CENI dans sa configuration actuelle. Ça sera encore la révision de la Constitution, alors que nous sommes dans un état de siège. Et ça sera encore la remise en question, peut-être, il y a des motions qui circulent contre le président de l'Assemblée. Donc, revoir encore au niveau même du fonctionnement de l'Assemblée nationale, ainsi de autant de problèmes. Donc, nous pouvons encore faire 6 mois, 1 année. Donc, ça sera un cycle infernal de problèmes de consensus en consensus. Donc, pendant que le peuple attend aller aux élections, que l'opposition rentre, qu'ils débattent, qu'ils donnent leurs propositions, et à ce moment-là, on verra si oui ou non il y a la volonté politique d'organiser les élections.
Merci, Emery.
Oui.
Merci Emery Malifouta, on vous garde dans ces débats, on va vous redonner la parole tout à l'heure. Alain Lomanja, 5e fois qu'on modifie la loi électorale et ça se fait toujours à quelques mois des élections. Est-ce que on ne donnerait pas raison à ceux qui pensent que c'est fait sciemment, comme l'a dit Dieudonné Mirimo, pour avoir une loi taillée sur mesure pour le pouvoir?
En fait, madame, on pourrait le dire effectivement parce que l'expérience montre en général que les différents pouvoirs se sont efforcés de retarder les réformes électorales jusqu'au dernier moment et d'aller à la va-vite en dernière minute pour essayer de flouer leurs oppositions. Mais je pense qu'il y a aussi un facteur culturel très important qu'il ne faut pas négliger, c'est que nous n'avons pas toujours cette culture de la prévoyance, de la prévenance, d'anticiper les événements, de planifier les choses à l'avance. On est toujours surpris par les événements. En d'autres termes, notre notion du temps est tellement élastique que parfois on traite avec beaucoup de légèreté les questions électorales qui sont hautement contraignantes en termes de délais incompressibles. Et puis, si vous me permettez, je voudrais quand même dire un petit mot là par rapport à ce que M. Dieudonné Mirimo avait dit à propos de la disposition sur la proclamation des résultats de vote par bureau, des résultats par bureau de vote. Il me semble que, comme il l'a dit, la disposition est déjà contenue d'une manière ou d'une autre dans la loi électorale actuelle. Mais on ne doit pas oublier qu'il y a toujours des esprits malins qui profitent des silences des lois ou de ce qui n'est pas dit expressément par la loi pour essayer d'occasionner les tripatouillages des résultats au dernier moment. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore combien de fois M. Corneille Nangaa, par exemple, avait répété à qui voulait l'entendre qu'il n'existait aucune obligation légale de proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Donc, cette disposition-là, que je trouve, à mon avis, capitale et fondamentale, permettra d'enlever tout prétexte à qui que ce soit au niveau de la CENI ou du pouvoir pour se permettre de proclamer des résultats qui ne seraient pas des résultats issus du vote des populations et conformes à ce qu'on a observé dans les bureaux de vote.
Est-ce que le problème ne se situe pas au niveau de l'application des textes, comme l'a dit Dieudonné Mirimo? On peut bien remettre cette disposition dans la loi, mais est-ce que l'application sera faite? C'est ça la grande question.
Voilà pourquoi j'avais dit dès le départ que l'amélioration de la loi électorale améliore théoriquement, mais seulement théoriquement, le processus électoral. Il y a effectivement un sérieux problème d'application des dispositions légales, mais il y a aussi un autre problème, c'est que quand les dispositions légales ne sont pas totalement claires, ça ne permet pas d'organiser les élections d'une manière transparente. Je donne par exemple, concernant la disposition sur la proclamation des résultats, il y a cette obligation-là de dépouillement dans les bureaux de vote et d'affichage dans ces bureaux, devant ces bureaux de vote comme dans les centres locaux de compilation des résultats. Il y a aussi une obligation d'affichage au niveau de la CENI, mais il n'y a aucune disposition qui dit que les résultats agrégés que la CENI proclame doivent être présentés suivant les bureaux de vote. Donc rien n'indique que ça doit se faire comme ça. Il faut donc lever déjà ces équivoques-là ou le silence de la loi et essayer de rendre expressément clair ce qui ne l'était pas avant.
Dieudonné Mirimo, on va suivre cet auditeur qui nous appelle depuis Kinshasa et qui veut donner aussi son point de vue sur les débats de ce soir, le thème de ce soir. On va l'écouter puis on revient au studio.
Gilbert Lokwalwando, je vous appelle depuis Limité dans la ville province de Kinshasa. Cette promotion de la loi électorale est une excellente vie des innovations qu'elle apporte. Nous apprenons que cette loi prévoit, entre autres, les organisations, les élections présidentielles à deux tours. Aucun candidat ne peut aligner son membre de la famille comme c'est brillant. Aucun candidat ne peut postuler à deux niveaux. Pas de distribution de l'argent lors des campagnes électorales, pas de seuil électoral et tant d'autres innovations. Nous appelons aux députés de l'opposition de voter massivement pour cette loi, afin de garantir au peuple congolais qu'il aura bel et bien les élections en 2023. À mon avis, le refus des députés nationaux membres de l'opposition de ne pas voter cette loi va non seulement tarder les élections en 2023, mais ça va également servir une raison pour les pouvoirs en place de ne pas organiser les élections dans les délais tels que prévus par la loi, pendant que nous, peuple congolais, nous avons besoin des élections 2023 pour sanctionner tout celui qui n'a pas bien travaillé lors de cette législative et élire de nouveaux dirigeants qui seront là pour le bien-être du peuple congolais.
Dieudonné Mirimo, cette proposition de loi électorale est excellente selon cet auditeur par rapport aux innovations qu'elle apporte. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
Merci beaucoup, madame. Les innovations qui ont été proposées dans la loi électorale, elles sont en tout cas bonnes. Je salue toutes les personnes qui ont contribué donc à ces propositions-là. Mais par rapport à ce que l'auditeur délimité vient de dire, je voudrais d'abord indiquer que on ne devrait pas isoler. Les élections sont organisées sur base d'un cadre légal. Et les parties prenantes doivent s'accorder sur l'ensemble de ces textes qui réglementent, qui organisent les élections.
Et cela doit se faire à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, pas en dehors de l'hémicycle.
Justement, déjà vous avez suivi, et Alain est revenu sur ça à plusieurs reprises, que la loi supportant organisation et fonctionnement de la CENI a été votée par l'Assemblée, mais sa mise en application a posé problème et ça crée des frustrations au sein de la classe politique et nous les suivons à travers les médias. Et donc, à partir du moment que les parties prenantes ne s'accordent pas sur les règles du jeu des élections, sur l'arbitre des élections, qui est la CENI, qui est la Cour constitutionnelle, ça pose problème. Donc on ne devrait pas seulement prendre la loi électorale isolée pour dire que non, l'opposition ne voudrait pas participer au débat, pendant que d'autres dispositions, l'application de certaines dispositions n'ont pas été bien faites. Alors, l'auditeur parle que l'opposition ne vote pas la loi électorale, elle va retarder l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Madame, je rappelle qu'à la date d'aujourd'hui, il reste 620 jours avant l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Donc, techniquement, il n'est pas possible d'avoir ces élections dans les délais constitutionnels. Il ne faudrait pas qu'on se cache derrière les débats sur la loi électorale pour dire que non, ça va retarder la tenue des élections pendant qu'il y a déjà certaines activités, certaines tâches que doivent réaliser la CENI qui, visiblement déjà, vont retarder l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Donc, c'est très important que l'opinion puisse retenir cela. Et donc, nous voulons que nous puissions avancer, mais il faut qu'on avance avec tout le monde pour que les élections puissent être organisées, et nous les voulons tous, des élections libres, apaisées et transparentes.
Je vous pose une question que j'avais posée à Alain Lomanja tout à l'heure. C'est sur la nécessité de changer la loi électorale. Faut-il la changer à chaque cycle électoral? Est-ce que c'est important de donner...
Oui, c'est très important, madame, parce que nous sommes une jeune démocratie. Nous sommes au troisième cycle électoral depuis que nous avons commencé. Et il est prévu à chaque fois de s'arrêter, d'évaluer, d'améliorer ce qui n'a pas marché par rapport au cycle passé, jusqu'à ce que, bon, on va s'accorder qu'à ce niveau-là, nous avons atteint, en tout cas, le niveau d'amélioration des textes qui met tout le monde d'accord. Mais jusque-là, en tout cas, je pense à mon humble avis, il est important d'apporter encore des améliorations. Comme je l'ai dit, il y a 18 propositions qui ont été faites, parmi lesquelles, en tout cas, elles sont légitimes. L'auditeur a parlé de l'élection des gouverneurs et des sénateurs au scrutin direct. Nous savons tous que cela a été décrié parce qu'on a dénoncé la corruption qui a entouré l'élection de ces élus-là et qu'il faudrait trouver d'autres mécanismes pour l'élection des gouverneurs et des sénateurs, notamment par exemple élargir le corps électoral pour l'élection des gouverneurs et des sénateurs. Nous avons tous suivi que les suppléants de certains candidats sont les membres de leur propre famille. Nous avons également suivi qu'un candidat pouvait se présenter à l'élection provinciale, il laisse le siège à son fils, il est candidat en même temps au national, il laisse le siège à sa femme, et il est candidat sénateur, et voilà que c'est toute la famille qui occupe le siège. Donc je pense que les améliorations qui ont été apportées ici vont vraiment son pesant d'or.
Emery Madifoutsa, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga.
Je suis Jean de Moulamba, depuis le Haut-Katanga à Lubumbashi. Je salue la sagesse du président de l'Assemblée nationale de vouloir mettre tout le monde ensemble. Quant à ce qui concerne les boycotts des élus du FCC, c'est leur droit légitime, étant donné que la RDC a choisi la démocratie comme mode de gestion. Mais la politique de la chaise vide ne paye pas. C'est pourquoi je recommande à tous nos élus de s'entrechoquer les idées afin que le Congo voie la lumière.
Emery Madifoutsa.
Oui.
Vous avez suivi cet auditeur, le point de vue de cet auditeur de Lubumbashi. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, oui. Je vous attends, madame. Je salue l'auditeur. Il rejoint notre point de vue. On ne peut pas débattre ces problèmes en dehors de l'Assemblée qui concernent les réformes électorales. Nous avons vécu le régime passé. Les élections allaient se passer en 2016, mais nous sommes allés jusqu'à 2018. Pourquoi? C'est à cause des boycotts. Et ceux qui, hier, ont fait souffrir le peuple, aujourd'hui, ce sont les mêmes maintenant qui reviennent d'accord pour dire que non, nous devons aller au dialogue. Non, c'est leur droit, bien sûr. Il n'y a pas une démocratie mais il y a des démocraties et la démocratie s'apprend du jour le jour. Même si il y a des pièges, il y a des astuces dans cette proposition de loi ou au niveau même de l'hémicycle, du bureau, mais il faut être là. Si vous ne pouvez pas être là, par quel miracle vous allez décanter la situation? Parce que vous laissez seulement la majorité en train de débattre de tous ces problèmes. Or, à ma connaissance, en tant qu'acteur de la société civile, beaucoup d'organisations de la société civile, d'autres composantes, ont fait des ateliers. On a proposé, il y a les référentiels de la société civile, des associations de femmes, des personnes vivant avec handicap et son sort, qu'on a déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, qu'on a réuni entre les mains des différents députés. Toutes ces contributions pourraient servir, n'est-ce pas, de l'arme, de l'alimentaire pendant cette période de débat de la réforme de cette loi. Mais, quand eux disent qu'ils ne veulent pas être là, il faut aller d'abord quelque part pour s'écouter, pour s'entendre. Non, on a toujours foué la population dans un passé récent en empruntant des approches. Et pourquoi nous disons, comme l'auditeur l'a dit, nous disons qu'ils rentrent à l'hémicycle, qu'ils débattent de ces problèmes, et c'est là où nous allons constater ensemble le fait. Le bureau est animé de mauvaise foi, où il y a une question de transparence, d'éthique électorale, qui caractérise et les membres du bureau ou bien les représentants du peuple qui sont les députés. Nous ne voulons pas ici travailler ou réfléchir sur des préjugés. Non, il faut être là. Et de cette façon-là, la société civile va dire: voilà, nous avons déposé le référentiel, nos propositions, les associations des femmes, les secteurs privés, c'est presque toutes les composantes qui ont déposé leurs propositions. Et on va analyser de quelle manière les travaux seront orientés et quel serait le résultat.
Alain Lomanja, comment trouver une solution à cette mésentente entre les députés de l'opposition et ceux de la majorité?
Il y a quelques jours, les églises catholiques et ECC avaient fait la proposition d'un dialogue sur les questions électorales majeures qui demandent, nécessitent un consensus minimal. Et je pense que cette proposition est très importante au regard du contexte politique actuel qui est assez tendu. Je ne vois pas le président Félix, quand il est arrivé à la tête du pays, il a fait aux populations congolaises la promesse d'un processus électoral sans contestation. Mais quand on voit les actes qui ont été posés par sa majorité depuis l'installation de la nouvelle CENI et par lui-même, on se rend compte qu'on ne va pas dans cette direction. C'est donc à eux que revient la responsabilité historique de penser à éviter au pays un autre cycle électoral de violence, en essayant de réunir les acteurs politiques sur les questions électorales uniquement, afin de promouvoir ce consensus-là.
Vous estimez qu'il est donc important d'avoir un dialogue sur les questions électorales pour avoir un minimum de consensus?
C'est important et indispensable. On peut ne pas l'appeler dialogue, parce que le mot fait peur aux gens, mais on peut même parler des rencontres, d'échanges sur le processus électoral, mais la réalité reste la même.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les textes électoraux, par exemple, ne soient pas modifiés à chaque processus électoral à la Lumanja?
Je voudrais peut-être dire quelque chose qui pourrait choquer certains esprits, mais je pense que ça correspond à peu près à la vérité. Tant que nous serons en train d'assister à des processus électoraux où les candidats gagnent, soit avec le concours de la CENI, soit avec le concours de la Cour constitutionnelle ou des deux, il est difficile que cette situation change. Mais si on veut réellement qu'elle change, je pense d'abord qu'il faut travailler en amont pour adopter une véritable culture démocratique qui permette de voir les élections comme un moyen d'accès au pouvoir et non pas comme une question de vie ou de mort pour ceux qui sont au pouvoir ou pour ceux qui sont dans l'opposition.
Merci Alain Lomancha. On va considérer cela comme votre conclusion parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Dieudonné Mirimo, qu'est-ce que vous proposez? Une rencontre entre tous les acteurs politiques, les forces vives de la République pour discuter des questions électorales uniquement afin de trouver un minimum de consensus.
Merci beaucoup, madame. Au regard du contexte actuel de contestation auquel nous observons depuis un temps, il est plus qu'impérieux, en tout cas, que les acteurs politiques se retrouvent autour d'une table pour baliser le chemin en vue de permettre l'organisation des élections apaisées. Je l'ai dit tantôt, on prend juste la loi électorale isolée pour en faire un débat. Non, il faut prendre le tout. Et je cesse de le dire, c'est l'application des textes qui pose trop de problèmes et à tous les niveaux, et particulièrement en ce qui concerne l'organisation des élections. Donc c'est très important, si nous voulons avoir des élections apaisées, que les acteurs se retrouvent pour débattre de ces questions-là et baliser le chemin en vue de pouvoir avancer et éviter encore une fois le chaos que ce pays a souffert de connaître depuis quelques années à chaque cycle électoral.
Merci Dieudonné Mirimo et Mary Madi Fouta. Vous êtes aussi d'accord pour une rencontre, un dialogue guillemets, entre acteurs politiques pour un minimum de consensus sur les questions électorales?
Oui, madame, nous ne sommes pas contre les dialogues, mais l'expérience fait que les dialogues en RDC aboutissent toujours par le partage des gâteaux. C'est tout simplement ça. Si dialogue il y en a, que ce soit à l'intérieur de l'hémicycle, les organisations de la société civile, la population en général, dans sa diversité thématique, a proposé ce qu'il fallait ou ce qu'il faut modifier au niveau de la loi électorale. Et que la proposition qui a été présentée soit débattue là-bas. Parce qu'il y a quand même des innovations ici de la société civile. Mais quant à encourager un dialogue, nous avons une mauvaise expérience de dialogue en RDC. Derrière le dialogue se cache autant d'ambitions, autant d'agendas. Donc nous risquons d'aller même après 2025. Et on aura encore échoué.
Merci, Emery Madi Fouta, Dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à Dola Madimba qui a réalisé cette émission. La mise en onde était assurée par Polydor Basunga. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.